Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À présent, on va entrer dans notre dossier santé du jour. Et pour cela, nous accueillons tout de suite Fabrice Midal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et écrivain, l'auteur du livre « Suis-je hypersensible ?» paru aux éditions Flammarion Versilio. Alors, ça veut dire quoi d'ailleurs? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et peut-être définir un peu les choses. Ça veut dire quoi être hypersensible? Je crois qu'il y a plusieurs critères. Hein. Vous parlez de 5 critères.
Oui, alors les hypersensibles. On estime à peu près à 20% de la population qu'il est. On sait que c'est des traits qui ont une partie génétique qu'on arrive aujourd'hui à peu près à repérer. Et les hypersensibles, au niveau sensible, perçoivent des choses que les autres ne perçoivent pas. Par exemple, vous êtes hypersensible, vous êtes gêné quand il y a trop de bruit ou certaines odeurs. Vous gêne quand j'étais enfant. Les étiquettes sur les vêtements, j'ai l'impression que c'était terrible. Et les cagoules, ceux qui ont inventé les cagoules, c'est pas pour les enfants hypersensibles. Donc au niveau sensible, au niveau émotionnel, vous sentez les choses des fois comme une éponge émotionnelle.
Ça, c'est le côté sensoriel de la chose.
Hein. Alors, il y a sensoriel, deuxièmement émotionnel.
D'accord.
Donc premier sensoriel, deuxièmement émotionnel, vous êtes un peu comme une éponge. Vous entrez dans une salle, quelqu'un va pas bien, vous le sentez tout de suite. Donc ça, c'est vraiment, je dirais presque empathique. Vous avez une sorte d'empathie énorme. Troisièmement, les émotions sont parfois comme des montagnes russes. Vous êtes joyeuse, vous êtes très joyeux, vous êtes triste, vous êtes très triste. Les choses sont, vous prenez les choses vraiment en plein dans le ventre. C'est vraiment fort. Quatrièmement, au niveau social, le jeu social, ça vous emmerde. Les manipulations et tout ça, vous avez besoin de sincérité, de vérité. Donc les petits calculs, ça vous ennuie. Vous avez besoin de choses vraies. Mmh. Et cinquièmement, au niveau cognitif, vous avez un esprit un peu en pop-corn. Il y a une pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée. Vous savez pas très bien comment vous trouvez les solutions.
L'image est sympa, en pop-corn, on comprend bien, je trouve.
C'est et donc ça va dans un peu dans tous les sens. Et moi, par exemple, j'ai fait des études de philosophie. Alors, faire une dissertation, c'était un peu mon cauchemar. Quand j'ai dû faire le doctorat, on a plus de place, mon esprit en pop-corn, j'avais plus de temps, c'était plus facile pour moi. Mmh. Donc voilà à peu près les 5 critères. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir les 5 critères pour être hypersensible, mais si quelques-uns vous frappent, peut-être vous êtes hypersensible. Et le savoir peut changer votre vie.
Mais ça peut être un handicap, une gêne, mais expliquez-nous dans la vie comment justement ça pourrait se manifester. C'est quoi la vie d'un hypersensible?
Alors il y a autant d'hypersensibles que de personnes. Il y a pas et moi j'aime bien le mot hypersensible parce que il y a des gens qui sont hyper chiants, il y a des gens qui sont hyper sympas, il y a des gens qui sont hypersensibles. Donc c'est pas un mot lourdingue, c'est juste voilà, vous sentez.
C'est pas surdoué quoi, ça a rien à voir avec ça. Et le mot est plus sympa.
Oui, c'est beaucoup.
Vous aimez pas le mot surdoué.
Je suis gêné par surdoué parce que ça veut dire qu'il y en a qui sont pas doués. Et quand un jour quelqu'un m'a dit toi t'es haut potentiel, mais j'ai dit mais rien qui sont bas potentiel, ça m'a pas plu du tout. Puis les enfants qu'on dit haut potentiel, souvent ça les angoisse énormément. On a des retours aujourd'hui que des gens qu'on a dit haut potentiel se disent des années plus tard, mais chaque fois que j'arrivais pas, je me sentais coupable. Tandis qu'hypersensible, voilà, on est juste, on sent les choses. Donc au quotidien, ça peut être vous êtes au restaurant, il y a beaucoup de bruit, vous ça vous gêne, ça vous empêche de parler, ça gêne personne. Mmh. Où il y a des odeurs, personne ne les sent, et vous, ça vous bouleverse.
Insupportable.
Et puis c'est les montagnes russes, donc voilà.
Mais ça veut dire quoi les montagnes russes?
Vous recevez un mail qui vous plaît pas et vous avez les larmes aux yeux. Bah, alors personne, ça gêne personne. Et les autres, ils disent, et vous, ça vous met les larmes aux yeux.
Se mettre en colère, c'est ça aussi.
Tout ce qui a une sorte d'intensité émotionnelle, mais je dirais plus que la colère, c'est plutôt vous êtes ému, vous êtes touché, les choses vous concernent, vous avez moins de protection. Alors ce qui est intéressant. Si vous voulez que je parle un peu des neurosciences, ça permet de comprendre. On sait que le cerveau, c'est un peu comme, je simplifie à l'extrême, les scientifiques me pardonneront, mais un peu, le cerveau, c'est comme une passoire. Il y a des choses qui passent, mais tout ne passe pas. Par exemple, vous êtes en train de manger avec quelqu'un, en train de boire un verre dans un café, ben, vous entendez un peu plus clairement ce qui vous dit que les autres sont. Du reste, quand on enregistre, on est surpris du décalage, on entend beaucoup moins. Donc notre cerveau filtre. Mmh. Quand je me concentre, par exemple, à répondre à mes mails que je dois faire, ben si quelqu'un est en train de faire autre chose, je ne le vois pas. Et ben le cerveau de l'hypersensible filtre un peu moins que les autres. Alors c'est un inconvénient parce que du coup il est un peu ému, bouleversé, il reçoit plus d'informations. Mais c'est un atout aussi parce qu'à force de filtrer, votre vie devient peut-être un peu plus monotone dans les rails. Donc la vie de l'hypersensible, il est un peu bousculé. Il a beaucoup plus d'informations.
Il a plus d'antennes, on peut dire.
Il a plus d'antennes, absolument. C'est pour ça que dans le premier livre que j'ai fait, j'avais d'abord un premier livre, Suis-je hypersensible, qui était une enquête. Et là, j'ai essayé de donner des cas concrets de la vie quotidienne.
C'est un cahier pratique.
C'est un cahier pratique, avec plein de petits dessins. qui quand même ça peut être très amusant pour les ados qui n'ont pas forcément envie de lire et qui peuvent se reconnaître. Et quand j'avais fait dans Suis-je hypersensible, enquête sur un pouvoir méconnu, j'avais vraiment essayé de faire une enquête de fond pour vraiment essayer de comprendre quel est ce fonctionnement tout à fait singulier de l'hypersensible, parce que quand on est hypersensible et qu'on ne le sait pas, on se sent comme un ovni, comme un martien, comme le vilain petit canard.
Quand est-ce que vous avez découvert justement que vous étiez hypersensible, vous ?
Il y a 10 ans, je vais à un colloque, il y a un neuroscientifique qui me dit « Vous êtes hypersensible ». Je lui dis « Excusez-moi, je vais changer de table, parce que me mettre dans une étiquette, je ne veux pas ». Il me dit « Attention, ce n'est pas ce que vous croyez ». Et là, il m'a expliqué ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai dit « Ah !
Mais c'est moi !»
Mais j'avais jamais fait, c'est moi, et je n'avais jamais fait le lien entre « Je ne supporte pas les pulls en laine, telle chose », et le fait que je suis tellement émotionnel et que mon esprit est en pop-corn, je voyais pas le lien. J'ai dit, ah, je suis pas anormal, j'ai juste une singularité, et la comprendre, ça vous libère énormément.
Mais justement, c'était ma question. Une fois qu'on sait qu'on est hypersensible, merci, mais qu'est-ce qu'on fait après,
déjà,
avec cette information?
On se comprend. Donc on sent déjà qu'on n'est pas anormal. Donc ça, c'est déjà énorme. Et à partir de là, on peut commencer à explorer son don. Et ça, c'est, disons, une de mes grandes convictions, c'est surtout... il faut pas être gêné, il faut juste explorer. Parce que quand j'ai fait mon enquête, j'ai découvert, ça m'a vraiment ahuri, qu'il y a une description, il n'emploie pas le mot chez Aristote, mais c'est exactement la description, il dit « Les grands hommes politiques, les grands scientifiques, les grands philosophes sont hypersensibles ». Alors il n'emploie pas le mot, mais c'est exactement ça. Et en fait, oui, imaginez un cuisinier qui n'est pas hypersensible, eh ben, ça va pas, il ne va pas être très doué. Vous imaginez un prof qui n'est pas hypersensible. Donc au fond, l'hypersensibilité, il y a des gens qui le sont, on pourrait dire, par naissance, mais il y a beaucoup de gens qui vont apprendre à cultiver leur hypersensibilité pour sortir des schémas tout établis et trouver de nouvelles réponses. Donc, un des conseils, alors il y a plein de conseils parce que c'est vraiment très concret, je donne plein d'exercices à faire, en plus je donne des petits exercices à faire, mais un des exercices, c'est d'explorer son hypersensibilité.
Vous avez cité les politiques, les
aujourd'hui,
philosophes.
Je pense que c'est plus vrai.
Est-ce que c'est pas évident.
Maintenant, je pense
sur les politiques,
que les hypersensibles,
j'étais un peu sceptique,
mais... je pense que depuis Aristote, ça a changé, que les politiques sont plutôt hyposensibles.
Voilà. Mais les artistes, parce qu'on a l'impression que les hypersensibles, justement, sont peut-être plus de créativité, je me trompe.
C'est pour ça que j'ai fait exprès de citer Aristote, parce que pour nous, hypersensible, c'est artiste. Et je trouvais que c'était intéressant que lui, il dise que un grand scientifique doit forcément être hypersensible pour trouver des choses que les autres ne perçoivent pas. Prenons un exemple tout simple. Tout le monde connaît l'histoire de Newton. Il cherche la solution, il va se promener, il voit une pomme qui tombe, il trouve la gravitation universelle. Eh bien, ça... au fond, quand il est parti se promener, il s'est mis en mode hypersensible. C'est-à-dire qu'il est sorti du fonctionnement de la conscience, de tout comprendre, de tout mettre en ordre. Il a ouvert son champ, et un truc qui n'a aucun rapport, la pomme qui tombe, lui permet de découvrir quelque chose. Et au fond, le cerveau de l'hypersensible, il reçoit plein d'informations, et s'il apprend à ne pas se protéger, mais à rencontrer ce qui se passe... là, il y a quelque chose qui le libère.
Et un hypersensible en amour, ça donnerait quoi alors ? Comment il fait pour avoir des relations
de beaucoup
en
souffrir,
amour ?
Non, j'imagine, je ne sais pas.
Non, c'est les deux. En même temps, un hypersensible, c'est quelqu'un qui va sentir l'autre et donc qui va être capable de s'ajuster à l'autre.
Donc c'est un bon compagnon.
C'est-à-dire que l'hypersensibilité, il faut apprendre à la vivre. Donc vous pouvez le vivre en prenant tout à fleur de peau et donc ça vous devient un vrai obstacle d'être hypersensible, ça vous ferme à l'autre. Donc je ressens tout, t'as dit ça, ça ne me plaît pas, donc ça devient un vrai obstacle. Mais ça peut être aussi une qualité, ça dépend comment vous le travaillez. C'est vrai qu'il faut apprendre, c'était tout le travail que j'ai essayé de faire dans ce cahier pratique, c'est vraiment donner des exercices concrets pour apprendre à sentir, pour apprendre à écouter.
À doser un peu ?
J'irais plutôt, par exemple, un des grands problèmes de l'hypersensible, c'est qu'il est facilement susceptible. Puisque quelqu'un arrive au bureau, quelqu'un ne lui dit pas bonjour, il le sent en pleine figure, il se dit « Ah ! » La personne en a contre moi. Donc par exemple, un exercice très intéressant à faire, c'est se dire « D'accord, ce que je ressens, je ne le remets pas en question, je suis blessé. Mais est-ce que l'intention de l'autre était vraiment de me faire de la peine ou il ne m'a pas dit bonjour juste parce qu'il est prisonnier de... Il est pressé, il s'est disputé avec son conjoint ce matin. Donc moi, qui suis par exemple, souvent je fais cet exercice. Je sens ça, d'accord, je ne me juge pas, mais quelle est l'intention de l'autre ? Et ces petits exercices vous permettent d'être beaucoup moins susceptible. Ou alors, un autre problème très concret que les hypersensibles ont, c'est que comme ils vont avoir des idées nouvelles, créatrices, ils arrivent au boulot, ils disent « Ah, j'ai une nouvelle idée, on change tout !» Les gens vont leur dire
« Calme-toi. »
Et donc, il ne faut pas prendre la résistance pour le rejet.
Ah,
ça, c'était vraiment une clé fondamentale. Vous êtes hypersensible, vous avez envie de faire bouger les choses, donc c'est normal que les gens soient un peu bousculés, donc soyez patients.
Ce n'est pas contre nous.
C'est pas contre vous, et le rejet, la résistance vient du fait que vous avez quelque chose de vraiment important à dire. Et dans une entreprise, les hypersensibles, de temps en temps, ils énervent, mais s'il n'y a pas d'hypersensibles, une société finit, toute entreprise finit par se dissoudre.
Avec que des politiques.
Et des hyposensibles.
Par ne plus rien créer. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui permettent de changer complètement la perspective.
Fabrice Midal, on n'en a pas fini avec vous. Nous allons poursuivre cet éclairage sur ce qu'est l'hypersensibilité. On commence quand même à bien cerner les choses et justement, on va passer à la pratique en quelque sorte. Comment faire de cette hypersensibilité un don ? Encore faut-il savoir l'exploiter, le déployer. On va vous donner un début de marche à suivre dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à midi et demi. C'est votre émission Bien-être tous les matins et nous sommes toujours en studio avec Fabrice Midal. Je rappelle que vous êtes philosophe et écrivain, l'auteur du livre « Suis-je hypersensible ?» aux éditions Flammarion. Alors justement, on a parlé de comment savoir les signes qui peuvent nous laisser penser qu'on est hypersensible. Est-ce qu'on pourrait se faire aider par un test ? Est-ce qu'il existe des choses pour vraiment cocher les cases ?
Dans mon livre « Suis-je hypersensible ? Enquête sur un pouvoir méconnu », je propose un petit test, mais il faut pas trop se prendre la tête avec ça. Aujourd'hui, on a trop tendance à vouloir tout mettre dans des cases comme une pathologie. Mais ce qui est vraiment important, c'est un des messages essentiels, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, il n'y a pas besoin d'aller voir un psychologue pour se faire diagnostiquer hypersensible, c'est juste une caractéristique. Comme je disais, il y a des gens qui sont hyper chants, il y a des gens qui sont hypersensibles. On sait, en plus, c'est très intéressant dans la théorie de l'évolution, que depuis les temps préhistoriques, il y a toujours 20 à 30% de gens qui sont hypersensibles parce que, en temps de guerre, c'est eux qui perçoivent les dangers avant les autres. En temps de paix, qui voient que telle plante va permettre de guérir telle chose. Donc, on a toujours eu besoin des hypersensibles. Donc, une fois qu'on se comprend, c'est important de se comprendre, de voir, ah oui, d'accord, je me comprends, mais c'est pas la peine de se prendre la tête, est-ce que je le suis vraiment ? Est-ce qu'il faut que je me fasse diagnostiquer ? Alors, il y aura un test, moi j'en ai fait un, il est assez simple, mais c'est surtout la question du diagnostic qui me semble dangereux.
Puisque le diagnostic n'est pas si nécessaire que ça, vous dites que ce n'est pas une maladie, est-ce que c'est vraiment très important de le savoir qu'on l'est ?
Ah oui, parce que quand on ne le sait pas, on se sent anormal, et donc on ne se comprend pas. Et donc les gens vous renvoient tout le temps que vous avez un problème. Moi, quand je l'ai appris donc il y a 10 ans, et qu'on me l'a dit, ça a été un soulagement. Parce que des fois, avant, je me disais, ah là, c'est pas normal que je réagisse comme ça, peut-être il faut que j'aille voir un psychologue, parce que j'étais trop ému, parce que de temps en temps, les choses me semblaient tellement intenses. Et une fois que j'ai compris, j'ai dit, mais non, c'est tout à fait normal.
Donc c'est important de mettre ce nom-là, pas à l'étiquette, mais sur nos enfants même, par exemple.
Ah oui,
mais
alors, moi,
vous auriez aimé le savoir dans l'enfance.
Ah, mais ça aurait changé ma vie. Ouais. Parce que moi, mes parents, ils me disaient tout le temps, mais tu le crois sur une scène de théâtre. Et ils pensaient que j'exagérais. Ah, et oui. Beaucoup de parents ont l'impression que leurs enfants font des caprices. J'ai le témoignage d'un journaliste, dès que j'envoyais mon livre, j'ai un journaliste qui m'interrogeait, il m'a dit, je dois dire, bouleversé, j'ai 3 enfants, j'ai un de mes enfants, depuis qu'il a 2 ans, je lui dis tout le temps que t'es capricieux, et c'est pénible pour moi. Eh ben, j'ai lu votre livre, j'ai été le voir, je lui dis, écoute, j'ai lu un livre, je crois que je te comprends, tu es hypersensible. Il m'a dit, c'est la première fois que j'avais l'impression de comprendre mon enfant. Donc il y a des centaines de gens, mais des milliers de gens, qui me disent que grâce à la lecture de mon livre, ils comprennent enfin leur conjoint, leurs parents, un frère, leur enfant, dont ils ne comprenaient absolument pas. Au fond, si vous voulez, quand vous êtes hypersensible, vous êtes en train de rouler sur l'autoroute en sens inverse. Et tout le monde vous dit « calme-toi, tout va bien ». Et vous sentez que ça ne va pas, parce que vous n'avez pas le bon GPS. Et quand vous comprenez que vous êtes hypersensible, vous changez de GPS et vous allez au bon endroit. Savez que telle chose c'est normal, telle chose c'est pas normal. Vous comprenez d'un seul coup où il y a un problème, où il n'y a pas de problème. Sinon, vous êtes perdu.
On peut même peut-être prévenir les gens qu'on est en sens inverse et que c'est pas grave.
Absolument. On est hypersensible, du coup, on est en paix avec soi, donc on arrive à trouver de bonnes stratégies, même si c'est dans les conseils que je donne dans le cahier d'exercice, c'est pas forcément une bonne idée de dire à tout le monde, voilà, je suis hypersensible. Parce que les gens qui connaissent pas vont vous enfermer dans la case, pauvre petite chose.
Puis c'est à la mode en ce moment aussi, les gens vont dire, oh oui, c'est à la mode, on est tous hypersensibles, parce qu'on en parle énormément en ce moment.
Si tout le monde dit ça, ça va, mais ce qui m'embête plus, c'est quand on vous dit, ah oui, il est hypersensible, on peut pas lui dire ça parce qu'il est hypersensible. Alors là, vous avez pas du tout envie qu'on vous en fasse dans la case, pauvre petite chose.
Faut pas que ce soit
retenu
contre nous.
Parce que les hypersensibles ont une capacité de résilience tout à fait importante. On a fait des études tout à fait pointues sur les enfants hypersensibles. Et alors, on a découvert des choses, alors là, c'est pour tous ceux qui ont des enfants, un enfant hypersensible qui est dans un environnement de protection, va se développer avec beaucoup plus de capacité de résilience qu'un autre. Mais s'il est dans un environnement un peu plus hostile, c'est beaucoup plus difficile pour lui. C'est pour ça qu'il y avait un chercheur qui dit « Les enfants hypersensibles sont comme des enfants orchidées par rapport aux enfants pissenlits. » Un pissenlit, ça pousse partout, un orchidée demande beaucoup de soins. Et c'est vrai que l'hypersensible, des fois, a besoin plus d'attention, plus de soins. Et une fois que vous comprenez ça, vous comprenez que l'environnement pour un hypersensible hyper est important. Hyper important. Et si vous êtes adulte, créer un environnement dans lequel vous êtes en sécurité vous permet de pouvoir oser vous développer avec plus de confiance dans le monde.
Alors on a des questions pour vous Fabrice Midal, Nadia sur Instagram qui nous dit « Je suis hypersensible, chaque fois que je regarde un film ou une série émouvante ou dramatique, je fonds en larmes. Enfin, j'essaie de le cacher pour que mon entourage ne s'en aperçoive pas. Comment mieux gérer ce genre de moment ?»
Ben, où est le problème ? Là je dirais, pourquoi croit-on que plus on sera comme un robot qui ne ressent rien, mieux ce sera. Là, notre société se trompe, les hypersensibles sont là pour dire à notre société, mais c'est normal qu'on soit ému. Alors après, si elle ne veut pas être émue, elle ne regarde pas. Moi, il y a des films que je ne regarde pas parce qu'il y a un niveau que je ne veux, où je ne veux pas aller parce que c'est trop douloureux pour moi. Mais il y a des moments, j'adore, c'est hyper grave d'être moment de pleurer, d'être ému. Donc il faut juste que les gens acceptent que nous, on vive les choses avec intensité. Moi, je dis souvent, les hypersensibles, ils sont surtout hyper vivants. C'est quand même génial. On a cette culpabilité. On ne devrait pas être hyper vivant. On ne devrait pas sentir les choses. Ben non.
Au contraire. Sabrina de Dijon sur Facebook nous dit « On me propose une belle promotion, passer manageuse d'une équipe de 50 personnes, mais je sais que je suis hypersensible et que je ne me sens pas capable, du coup, d'endosser ce costume. Qu'en dites-vous »
Eh bien, c'est absolument pas vrai. Les hypersensibles, il y a un métier que les hypersensibles sont incapables de faire, ça c'est vrai, je le reconnais, c'est dictateur. Là, ils ne vont pas y arriver. Mais un manager qui est hypersensible, c'est formidable, parce qu'il va avoir de l'empathie.
Et qu'il le sait.
Il va comprendre ses équipes, il va pouvoir en faire quelque chose. Et dans mon livre « Suis-je hypersensible, le cahier pratique », il y a même plein d'exercices pour ce cas de figure. Quand je dois manager ou diriger une équipe, quels sont mes atouts et comment me protéger de mon hypersensibilité. Mais c'est fantastique d'être hypersensible.
Donc acceptez votre promotion, surtout Sabrina. Hein,
oui, surtout il faut l'accepter.
Et acheter le livre pratique de notre invité.
Mais ça peut être un cadeau peut-être pour ses collègues.
C'est vraiment, être hypersensible, c'est une grande force. C'est juste pas toujours confortable. Mais croire qu'une vie heureuse est une vie dans laquelle c'est toujours confortable est une erreur. C'est sûr, quand vous êtes hypersensible, vous sentez les choses avec intensité. Vous êtes hyper vivant. Enfin, c'est quand même formidable.
On a du bol. Qui a 39 ans, qui nous a laissé un message au 39-21, il dit « J'ai une collègue qui n'arrive jamais à dire non, elle ne refuse jamais une tâche, elle est toujours d'accord avec les autres. Est-ce que c'est une hypersensible, par exemple ?»
Ça peut être une manifestation d'une hypersensibilité non reconnue. Et donc, comme elle sent les choses, elle a peur de ce qu'elle ressent. Et donc, elle ne sait pas dire non. Mais ce qui est essentiel quand on est hypersensible, c'est apprendre à écouter ce que l'on ressent pour ne plus en être prisonnier. Donc on prend un moment, là j'ai peur, d'accord, je sens ma peur. Quand vous la reconnaissez, que vous voyez que c'est OK, alors ces genres de petits exercices vous permettent de ne plus être prisonnier, et dire d'accord, j'ai peur, mais là non. Et ça c'est curieux, parce que c'est aussi un des thèmes, une des situations. Puisque quand j'avais fait le premier livre, et tout le monde disait, c'est génial, je comprends mon hypersensibilité,
en
pratique, dans toutes les situations de la vie. Alors donc, j'ai rassemblé 40 situations de la vie de tous les jours. Voilà, j'ai une promotion, j'ose pas dire non, mon enfant fait un caprice, je suis susceptible, et j'essaye de montrer comment on peut le faire et quels sont les exercices qu'on peut mettre en application. Parce qu'au fond, ce que j'essaye de proposer, c'est à la fois, là, je donne un peu des trucs, mais dans le livre, c'est vraiment une sorte de méthode pour apprendre à avoir le bon GPS d'hypersensible.
Fabrice Midal, on va prendre une dernière question, celle de Laure-Lise sur Instagram. Elle dit « Mon fils a été diagnostiqué hypersensible. Il vit toutes ses journées et activités avec énormément d'intensité. Le problème, c'est qu'à l'école, au collège, ses profs notamment, lui demandent sans cesse de se calmer. Je suis convoqué tout le temps. Est-ce que c'est possible? Comment faire pour améliorer son quotidien ?»
Il faut expliquer la situation. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis tout à fait opposé à l'idée. Calmez-vous. Gérer votre stress, il faut avoir que des émotions positives, tout ça, cette injonction me semble complètement absurde. Un enfant ne peut pas se calmer. D'abord, en plus, on connaît aujourd'hui le cerveau d'un enfant, c'est pas qu'il fait des caprices, c'est qu'il n'a pas la capacité d'avoir un contrôle sur lui-même comme un adulte. Donc, il faut lui apprendre à explorer ce qu'il sent. Vous voyez, c'est plutôt lui dire « qu'est-ce que tu sens ?» Et l'école n'est pas un monde parfait, mais c'est bien que les enfants hypersensibles, même si c'est douloureux, moi c'était douloureux l'école, mais le fait d'avoir dû subir l'école me permet de subir aussi les emmerdes de la vie d'adulte et trouver des manières d'apaiser les choses.
Merci beaucoup Fabrice Midal d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet sensible en lui-même, puisque très intime. Merci pour vos réponses également à nos auditeurs. Et donc, je rappelle pour ceux qui voudraient davantage d'infos, votre livre « Suis-je hypersensible ?» aux éditions Flammarion.